Bonjour et bienvenue dans Certains Lama Show, l'émission qui déroule le tapis rouge pour les films à la sortie. Salut Thierry.
Salut Thomas.
Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial qu'on va enregistrer sur plusieurs séances à la fois, un peu comme les festoches qu'on a fait précédemment, mais là, c'est pour le Festival de Cannes. Alors, on ne s'est pas déplacé à Cannes, on n'a pas le budget encore, faut pas déconner, puis on a du boulot, donc on n'a pas pu descendre, mais les films sont montés jusqu'à Paris. Et donc, on a fait un petit épisode, on a fait une petite sélection de ce qui était sorti. On a pris trois titres sortis là, cette semaine ou la semaine précédente à Paris, en même temps qu'à Cannes. Et on va donc faire une émission spéciale dessus. Voilà. Alors, les films d'aujourd'hui, on aura le film Almodovar, Douleur et Gloire, le film de Claude Lelouch, Les plus belles années d'une vie, et le film de Justine Triet, Sibylle. Et on commence par Almodovar. Bonjour et bienvenue dans Certains Lama Show, l'émission qui glorifie les films à la sortie. Salut Thomas.
Salut Thierry.
Salut Alex.
Salut Thierry.
Et on a un retour, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, salut Yassa.
Salut.
Aujourd'hui nous sommes toujours en pleine semaine cannoise, alors les films sortent au compte-gouttes. On va voir Douleur et Gloire de Pedro Almodovar, qui est donc son nouveau film, qui est présenté en compétition. Pedro Almodovar, un grand retour.
Un grand retour, un retour à Cannes. Il a été président il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, il était très déçu quand il était président parce qu'il voulait donner la palme d'or à 120 battements par minute. Prix du jury quand même. Là, c'est le retour de Pedro Almodovar. C'est son sixième film, si je ne me plante pas, à Cannes. Pas en tout, non, ça, mais voilà. Là, il est en compétition carrément aussi.
Alors, c'est des retrouvailles pour lui avec Antonio Banderas. Après, pas tant que ça, puisque il l'avait dirigé dans La Piel qui habito. Donc c'était il y a trois films, donc c'est pas si longtemps que ça. Et Antonio Banderas, comme Penélope Cruz, qui est donc dans ce film-là, jouait tous les deux des caméos dans Les Amants Passagers. Ouais. Penélope Cruz, qui par contre, elle n'a pas fait de rôle concret avec Almodovar depuis Bolbert, si je me trompe pas. Donc ça date pas tant que ça non plus. Mais en tout cas, c'est un couple avec lequel il a beaucoup tourné, avec qui il est habitué. Enfin, même avec Banderas, il a tourné avec lui. Le gars était minot et faisait quasiment que ça. En tout cas, dans les films très connus. Donc oui, c'est un bon retour dans le casting qu'il connaît. Il est sûrement donc à l'aise. On s'attend à du bon jeu, j'espère. Est-ce que vous avez des attentes particulières sur ce film ? Alors, dis-moi.
Sur le film, j'ai appris aussi qu'il viendrait conclure une trilogie informelle. Almodovar n'a pas l'intention de faire cette trilogie. Trilogie avec La Loi du Désir et La Mauvaise Éducation. Dans tous ces films, le personnage est un réalisateur. Alors, je n'ai vu aucun des trois, donc je serais incapable. Enfin, j'ai pas vu le troisième puisqu'il n'est pas sorti, il sort aujourd'hui, donc ça c'est normal. Mais j'ai pas vu les précédents non plus.
La Loi du Désir et La Mauvaise Éducation sont tous les deux de très bons films, donc il a intérêt à se maintenir au niveau pour justement réatteindre ça une fois encore, on l'espère. Est-ce que, Yassa, tu as des attentes particulières sur ce film ?
Almodovar qui revient à Cannes, c'est rassurant pour moi. C'est un peu comme un bon café qu'on prend le matin. On sait qu'il va être là, on sait qu'il nous attend. Je crois que c'est Giulietta qui était sortie il y a 2 ou 3 ans. Je l'avais vue, ça m'avait laissé plus ou moins indifférente, à vrai dire. J'avais pas aimé, j'avais pas détesté. Donc là, par contre, avec le retour de Penélope Cruz et d'Antonio Banderas, j'attends de voir ça. Je suis assez excitée de le voir là.
Alex, une attente particulière ?
Pour moi, Almodovar, c'est toujours le mec que j'ai pas envie de voir, et quand je le vois, je suis super heureux en fait. Je sais pas pourquoi, il y a des gens comme ça qui te passionnent pas, et puis en fait, si, c'est des génies. Et voilà, Almodovar, ça fait partie de ces choses-là, ça fait partie de ces gens-là. Donc j'aime beaucoup Antonio Banderas, je suis amoureux de Penélope Cruz, comme tout le monde le sait. Donc j'attends beaucoup parce que c'est un beau trio et que ça devrait donner quelque chose d'assez lourd.
Thomas ?
Je trouve pas Victoria Abril dans le casting.
Où sont Carmen Maura et Victoria Abril, quoi. Donc tu as envie de voir Talon Aiguille, c'est ça, et pas Douleur et Gloire.
En fait, parce que je m'aperçois que d'Almodovar, j'ai pas vu grand chose à part Talon Aiguille il y a très très longtemps. Justement. Mais moi j'y vais parce que je suis bon client. Tu appelles, j'arrive, voilà, comme ça, tout ça.
Bon, alors, donc du coup, pour conclure, moi perso, je suis très 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 fan d'Almodovar, à part peut-être un de ses premiers que j'aurais eu du mal à trouver. J'ai vu tous ses films, tous ne m'ont pas enchanté, mais tous m'ont plu, et du coup c'est quelque chose quand même. Giulietta, je te rejoins, Yassa, où moi c'est un film qui m'a pas énormément marqué la première fois, mais que j'ai beaucoup apprécié la seconde, et quoi qu'il arrive, c'est toujours très juste en fait avec Almodovar. C'est un mec qui sait faire des portraits, plus des portraits féminins, il est brillant là-dessus. En portrait masculin, je ne sais pas, c'est assez différent, mais il le fait quand même très bien. Il paraîtrait que ce film est quand même légèrement autobiographique, en plus de conclure du coup ce que tu disais Thomas, une trilogie. Donc j'attends de voir une mise à nu, j'attends de voir quelque chose, j'espère, de sincère, comme il l'a toujours fait. Son cinéma est un cinéma très abrupt et très sincère. Donc ouais, moi je suis plutôt très confiant.
Ça ne peut pas être pire qu'Hellboy. Ça ne peut...
Ouais, non mais là tu compares. Heureusement qu'Hellboy n'est pas présenté à Cannes, t'imagines.
Faut pas se tromper de salle, c'est tout.
Prix du maquillage.
Catégorie un certain regard de merde. On va rentrer dans la salle, on va souffrir ou se glorifier, sait-on jamais quelle est la partie du titre qui nous intéresse. Mais en tout cas, on saura ça après la bande-annonce.
No ha sido un buen hijo, hijo mío.
¿No?
No.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
Vivir, supongo. Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste?
Lo escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello.
Tú eres muy novelero.
¿Tú quién coño te crees que eres? Solo he dicho la verdad.
La película ha terminado, el público se está esperando.
Últimamente pienso mucho en ella.
Si tú ves algo raro, me llamas.
Aquí todo es raro.
¿Os importaría repetir el aplauso de antes?
¿Nos conocemos?
Sí.
Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda.
¿Y qué es? ¿Drama o comedia?
Oh, no lo sé. Eso no se sabe.
A tu vera, siempre a la verita tuya. Siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera.
On sort de Douleur et Gloire. Deux heures avec du contenu, deux heures riches, deux heures longues également. Alors, qui veut commencer? Quel est le ressenti?
Et les deux heures suivantes sont vachement bien. Parce que moi, je trouve que pour un film de 4 heures, ça passe vachement bien.
La première impression, c'est ressenti 4 heures pour Thomas.
Non, c'était vraiment 2 heures?
C'était vraiment 2 heures, c'était 1h55.
Ah merde. Non, alors parce qu'il y a des bons... En fait, c'est par touche. Il y a des passages que j'aime bien. Il faut que je picore. Il faut que c'est un film tapasse un peu. Cliché, on le met dans les clichés espagnols celui-là. Non mais en fait voilà, je picore un peu. Il y a des morceaux de ce film que j'aime beaucoup. Il y a des passages, j'aime beaucoup la fin. J'ai été pris par la fin. Il y a des moments, je suis un peu fatigué là. On est en fin de semaine, j'avoue. Donc j'ai pas été complètement au taquet pendant tout le film. Il y a un petit passage de présentation que j'ai bien aimé au début. Il y a plein de choses que j'aime beaucoup. J'aime bien l'ambiance générale qui se dégage. J'aime bien les couleurs qui sont utilisées. Bon, même si elles sont pas toujours très bien accordées, ça fait un peu mal aux yeux. Mais bon, ça c'est l'Espagne. Hein. C'est le côté désigual, ça un peu. Non, mais on sent qu'il y a quelque chose de personnel dans cette œuvre. Hein, et même si j'ai pas tout suivi dans la cohérence, dans le quels sont le rapport des scènes entre elles, pas tout le temps. Et il y a des passages entre adultes et enfants que j'ai pas tout le temps compris. Bon, à la fin, il y a des éléments de réponse, donc moi, c'est pour ça que j'aime bien la fin, en fait. Ça se recolle un peu, ça colle les morceaux. Je sens une sincérité. Je sens qu'il y a quelque chose de personnel de l'auteur qui se dégage. Hein. Certes, c'est peut-être pas complètement autobiographique, mais il doit y avoir beaucoup de lui quand même là-dedans, dans l'écriture aussi. Et j'ai trouvé également l'interprétation, la direction d'acteur, nickel. Impeccable. Hein. Antonio Banderas, c'est formidable.
Je te rejoins sur Antonio Banderas. Il est incroyable et justement, ça fait plaisir de le voir dans ce registre-là. Parce que je veux dire, moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Expendables 3. Ouais. Et j'ai limite honte que ce mec ait été un actionneur et ait pu faire des trucs comme ça pour que ce soit aussi mauvais alors qu'il est capable d'être sublimé de cette manière-là. Et dès qu'il est avec Almodovar, le mec sait exactement comment faire pour le mettre en valeur et c'est assez incroyable, ouais, là-dessus.
Il m'a fait oublier Zorro, quoi.
Moi, je le trouve le premier, le masque de Zorro, lui dedans est plutôt bon, ou même le film est plutôt correct. Il y a eu la légende.
Il m'a fait oublier Spy Kids aussi.
C'est vrai qu'il y avait Spy Kids, quoi. Et je pense qu'un jour on va rejoindre Carl en fait, hein, sur la qualité de Robert Rodriguez.
Ah putain, Robert Rodriguez, il y a un truc là que j'ai appris. C'était un truc sur le futur. Et alors j'ai appris qu'il
avait fait une pub pour du cognac.
Il y a un film qui va sortir dans 100 ans et c'est lui qui a réalisé ça. Et je me suis dit, putain, un film dans 100 ans avec Malkovich, ça va être vachement bien. Et puis après, je vois.
Réalisé par Robert Rodriguez. Je me
dis, putain, les pauvres gars qui vont tomber là-dessus dans 100 ans.
On se dira, c'était ça le cinéma des ancêtres. Donc, ouais, du jeu, beaucoup de jeux, beaucoup d'éléments, comme tu dis. Moi, le rythme aussi était pas toujours propice. Moi, j'ai eu des petits moments d'évanouissement. C'est vrai que le film essaye de caser énormément d'éléments. temps, ça parle de, enfin, ça parle donc du personnage, donc du réalisateur. Ça parle de lui, ça parle de sa vie, ça parle de son avenir, ça parle de sa santé, ça parle d'énormément de choses. C'est un énorme pataquès de plein de trucs qui se rejoignent, qui s'affirment et qui se complètent, mais où on a peut-être besoin d'un peu de cohérence. Ça, c'est vrai.
Bah, alors, si je dois donner mon avis, disons que le film. Côté Pedro Almodovar, on a tout, c'est-à-dire qu'au niveau de la photographie, au niveau de des acteurs, c'était génial. Voilà, les musiques qui étaient très belles, chaque plan était vraiment travaillé. Et si vous voulez voir du Almodovar, bah là c'est le top du top. Enfin, de ce que je, voilà, j'ai vu trois films, hein, mais bon, de lui. Mais c'est assez balèze et c'est un très bon film à aller voir avec plaisir. J'ai remarqué quelque chose, c'est que on a effectivement plein d'éléments dans ce film. On suit le héros, donc Antonio Banderas, et la seule chose qui m'a... Comment dire ? Ce qu'on retient le plus, c'est les femmes, comme à chaque fois dans Pedro Almodovar, c'est-à-dire qu'on suit le héros, mais le héros est très lié aux quelques flashbacks avec sa mère, et même les quelques flashbacks avec sa mère en plus vieille, et tous les éléments féminins ou presque sont extrêmement touchants, et je pense qu'Almodovar, en fait, c'est quelqu'un qui sait raconter des histoires masculines aussi, mais à chaque fois, c'est le féminin qui prend le dessus, et c'est très beau, et à chaque fois, je pense qu'il y a un... c'est pas négatif, hein, c'est très positif, mais je pense vraiment qu'il y a une force particulière chez les femmes qu'il trouve et qu'il arrive moins à retranscrire chez les hommes. Ce qui ne rend pas cette histoire moins intéressante. Cette histoire reste quand même connectée aux femmes et là-dessus, il reste touché. Je sais pas comment expliquer ça, bordel. Ouais. Vous me suivez ou pas ? Est-ce que vous m'avez compris ?
Non, mais les femmes, il y en a deux, quoi. Arrête.
La mère est extrêmement touchante.
La mère est l'assistante, même.
L'assistante qui est un petit peu effacée, mais elle reste quand même...
Ou c'est l'actrice copine ? J'ai pas bien compris.
Il y a l'actrice copine, mais qui est pas si prononcée. Par contre, il a son assistante. C'est son agent.
C'est son agent, elle s'occupe de lui, enfin, de lui ramener des bouquins. On parle de la blonde, on est d'accord. Mercedes. Moi, je me suis prise au jeu. J'ai été à fond dedans depuis le début, dès que ça a commencé, en fait. Il pose, à vrai dire, c'est assez décousu et à la fois c'est cohérent. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais moi je sentais que c'était décousu. Il y a quelque chose qui, avec les flashbacks, en fait, qui me dérangeait à la fois et en même temps je trouvais ça totalement approprié. C'est un peu comme ce qui, enfin, j'avais vu une bande-annonce où il y avait une citation d'Almodovar où il disait c'est mon histoire, mais à la fois c'est pas la mienne. Enfin, c'est oui et non, quoi. Et du coup, j'ai ressenti ça dans le film, c'est-à-dire qu'on sentait qu'il racontait quelque chose, son histoire, et à la fois que c'était une fiction, quoi, une autofiction. Voilà, il parle vraiment d'autofiction dans le film. Donc. J'ai versé ma petite larme à un moment donné. Rigole pas.
Plusieurs moments.
Non. Ça va. Parce que ça m'a touché, c'était beau, j'étais à fond dedans. Voilà.
Moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand je suis sorti de la séance, c'était réalisateur studio. Donc pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, l'acteur studio, c'est une technique donc du coup de jeu d'acteur qui consiste à se mettre dans la condition dans laquelle on est censé être avant de jouer une scène. Donc par exemple, c'est vraiment deux écoles qui se combattent et qui ne sont pas d'accord l'une avec l'autre. Certains considèrent que l'autre d'ailleurs est obsolète et l'autre non. Par exemple, si quelqu'un dit là tu dois être épuisé, le mec il arrive, il est pof.
C'est l'anecdote
avec Dustin Hoffman et un.
Qui fait 5 fois le tour de pâté de maison pour être crevé.
Voilà, c'est ça. Donc,
alors que le vrai acteur à côté, il joue et il a l'air aussi crevé que l'autre.
Il a l'air aussi crevé que l'autre, alors que l'autre est obligé donc, du coup, de faire la méthode à Oscar Studio, donc je cours partout et compagnie. Donc c'est des gars comme Daniel Day-Lewis qui vont s'enfermer pendant des années avec des Indiens pour pouvoir faire le dernier des brigands, quoi. Et là, en fait, ça m'a fait marrer parce que justement, c'était le côté un réalisateur qui est aussi en panne d'inspiration et qui veut arrêter sa carrière. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher au plus profond de lui-même pour réussir à retrouver quelque chose. Et du coup, c'est en ça que je me demande si c'est pas autobiographique. S'il n'y a pas ce côté-là, s'il n'y a pas le côté Almodovar commence à sentir qu'il a fait le tour de ses histoires et du coup il va chercher. Après, au niveau des thèmes abordés et au niveau du sujet, moi ça m'a beaucoup fait penser à Tout sur ma mère. Donc du coup, il y a un côté thème déjà abordé grâce à ça. Donc j'ai trouvé qu'il se répétait, mais en tout cas qu'il abordait des thématiques qu'il avait déjà abordées en les rectifiant, en montrant aussi que c'est les choses dont il a envie de parler et en... qu'on sent beaucoup de Bolbert aussi dans la relation mère-fils, on sent beaucoup, beaucoup de son cinéma en fait. Et en effet, bon, le rapport avec la mauvaise éducation est là également. Et on parle des premiers émois, on parle de sexualité, on parle de plein de choses, ça construit toute une vie tout en la déconstruisant, c'est assez intéressant.
Mais ça rejoint en fait, entre ce que tu dis et ce que disait Thomas tout à l'heure, qui conclut une trilogie sur les réalisateurs, c'est ça. Bah, en fait, c'est un peu ça, quoi. J'ai un peu ressenti ça, c'est-à-dire que ben, voilà, il en est à un stade où vraiment il a vécu en tant que réalisateur et il se pose et il prend le temps de... C'est un peu comme une introspection, quoi.
Après, ça rejoint aussi ce que vous disiez dans le fait que c'est l'histoire d'un personnage, mais finalement, c'est toute une mosaïque avec des flashbacks, avec d'autres histoires et avec d'autres thématiques qu'il a abordées. Donc, les femmes avec sa mère, Lavandière, etc. Premier émoi, premier amour, la sexualité, les doutes, l'héroïne ou pas, je ne sais pas. Voilà, c'est peut-être un peu ça, ce film, finalement. C'est un fleuve avec tout plein de petits ruisseaux tout autour qui forment toute une carrière. Alors, est-ce que c'est le cas ou est-ce que je m'en jaille? Je ne sais pas, mais ça, voilà.
En tout cas, c'est le cas pour son personnage. Est-ce que c'est son cas ouais. pour lui? Ça, c'est une bonne question. Mais il n'y a que lui qui peut y répondre et visiblement, il reste un peu vague.
Non, mais c'est vrai que oui, tu parles des petits morceaux, c'est un peu des mosaïques, un peu comme la mosaïque que vient installer le maçon.
Oh, c'est beau.
Et oui.
Oh, c'est beau.
Et ouais.
Alors là, comme ça a l'air lourdingue, mais en soi, si on y réfléchit par la métaphore, elle est super poétique et c'est très bien foutu.
Parce que les gens ne savent pas, mais il y a un maçon qui cale une mosaïque dans le film.
Disons que par rapport à The Dead Don't Die qu'on a vu. Il y a très pas longtemps, parce que là c'est Cannes, hein, donc on est en mode cannois, ça y est. Ouais, mais là on a de la subtilité dans les messages. On n'a pas un mec qui vient avec une grosse casquette de Trump, avec des gros trucs qu'on te répète 5 fois parce que. Putain, mais Jim Jarmusch, on l'a pas dit que quand même le coup de la fracturation, il le répète 5-10 fois dans le film pour bien t'expliquer que quand même c'est nous qui détraquons la Terre. Là c'est pas le cas, là il y a quand même une subtilité dans les rapports et dans le truc. Quand le mec il a dit une fois que putain, tu serais pas en train de travailler un rôle en prenant des trucs ou en faisant des expériences, est-ce que tu serais pas en train de le faire? Il le dit une fois, c'est pas la peine de le dire 40 fois derrière. Quand il y a le problème de l'acceptation avec la mère, c'est un dialogue, c'est pas 36. Il y a une certaine douceur, il y a une subtilité, il y a un va-et-vient dans les flashbacks, mais c'est chaque fois il y a un montage qui est plutôt doux. Avec ça, c'est agréable, c'est bien amené. On peut faire des films et faire passer des messages sans y aller au bulldozer quand même, merde.
En fait, Almodovar, il fait un travail de réalisateur, c'est-à-dire qu'il te dit les choses une fois et le reste, il te le montre.
Voilà. mais ça s'appelle du cinéma et c'est bien de voir ça. Et moi, je suis content d'avoir vu ça, voilà.
Donc Alex, au final, il t'aura fallu 2 jours, mais tu auras eu ton film poétique et philosophique.
Je l'ai eu, merci la croisette.
Là, les gens qui nous écoutent ne savent absolument pas de quoi parle le film. Ils savent juste qu'il y a Almodovar et...
On s'en fout, c'est Almodovar.
Et Antonio Banderas. Et Penélope Cruz qui vient dans les flashbacks. Donc, de quoi ça parle, Thierry?
C'est l'histoire de Salvador Mayo, qui est donc un réalisateur qui commence à sentir la fin de sa carrière et qui va du coup raconter sa vie, sa fille, qui est faite de sa maladie qui prend toute sa place, puisque c'est un monsieur qui a énormément de syndromes qui l'handicapent énormément et qui du coup doit prendre des médicaments qui du coup vont altérer sa vision, son rapport aux autres et sa vie en général. Il va donc se raconter à travers sa mère, se raconter à travers donc les gens qui l'entourent, à travers ses relations et à travers les histoires qu'il a racontées et qu'il a envie de raconter. Petit résumé de l'histoire. Douleur et gloire, un film classique pour Almodovar. Est-ce qu'à votre avis, il faut y aller prévenu? Est-ce que, comme le dit Alex, c'est vraiment un bon film pour commencer? Pour ceux qui, justement, connaissent un petit peu moins Monsieur Pedro.
Il a fait des chefs-d'œuvre qui sont bien plus... Enfin, qui sont beaucoup mieux que ce qu'on a vu, certes. Mais c'est un bon moyen de commencer avec Almodovar. Franchement, il résume assez bien, en fait, sa carrière. Les thématiques sont là, les prises de vue sont là, les décors, le jeu d'acteur, tout est là. Donc, je pense que ouais, je recommande.
À mon avis, c'est justement le film où on devrait finir Almodovar, parce que justement, toute cette mosaïque se regroupe et on s'y retrouve assez bien.
Alors, c'est là-dessus que j'allais venir. Est-ce que, enfin, alors moi, personnellement, justement, en tant que mec qui aime beaucoup Almodovar, est-ce que ça sentait pas justement limite l'œuvre testament?
Oh non.
Non, l'œuvre testament.
Par contre, non, mais Almodovar a la réputation d'être très sulfureux dans son cinéma, très provoque, fait d'aborder des thèmes sur l'identité, sur l'homosexualité, et des termes très forts en soi. Là, ces thèmes, ils sont, mais je les ai trouvés plutôt soft.
Non, là c'est le cas, on n'est pas du tout dans justement dans des trucs que tu peux voir dans Kika, dans, voilà. Donc, dans Matador, dans Attache-moi, dans ce genre de trucs quoi.
Voilà, donc justement, donc peut-être que pour commencer justement, pour y aller doucement, comme ça va doucement, oui, alors pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut commencer par celui-là, dans la mesure où il est soft et pas trop provoque, oui. Après, oui.
Non, je dirais qu'il justement,
le plus représentatif.
Ouais, et puis même dans le côté soft et plus moral ou quoi que ce soit, mais avec une intrigue qui tient vraiment de bout en bout. Enfin, en tout cas, qui rend haletant quand on connaît pas son cinéma. Il a fait des choses, je trouve, plus pertinentes. Là, pour moi, c'est vraiment plus du cinéma d'initié. Si on aime l'auteur, on le reconnaît, on est content de le retrouver. Pour le découvrir, je commencerai vraiment pas par celui-là.
Pour en revenir sur l'œuvre Testament, je l'ai ressenti comme ça, une œuvre Testament jusqu'à la dernière scène où en fait tu te dis que c'est pas vraiment terminé, quoi, que ça continue. Je pense qu'on va encore avoir des films d'Almodovar pendant un bon bout de temps.
Almodovar est pas si vieux en plus, donc il peut encore nous tenir 20-25 ans, donc j'espère que ce sera le cas.
Mais par quel film on devrait commencer Moi je penserais, alors j'oublie toujours le nom de ce film, Vicky Victoria.
Ça c'est Woody Allen.
Ah putain, mais merde.
Et c'est sulfureux, mais c'est Woody Allen.
Ah putain, pourquoi je les mélange?
Non, ouais, si tu veux commencer avec le Almodovar provoque, sulfureux, qui te fait des portraits de femmes et qui hésite pas à montrer ce qu'il va, moi je dirais soit Attache-moi, soit Femme au bord de la crise de nerfs.
Attache-moi.
Et si tu veux du Almodovar plus pas travaillé mais plus doux, plus classique, avec des histoires plus douces aussi, plus belles, qui vont plus essayer de te toucher que de te faire remuer dans tous les sens, je dirais soit Bolbert, soit tout sur ma mère. Voilà, en gros les choses plus récentes. Après, moi j'ai commencé Almodovar avec La Piel qui habito, qui est pas à mettre entre toutes les mains, qui est, je trouve, exceptionnel, mais qui est quand même très spécial à regarder, quoi.
Non, je suis d'accord. Je pense que j'ai vu Volvea, La Piel que me habito, et j'ai dû en voir un autre, mais là tout de suite je l'ai pas. Effectivement, Volvea.
Tu as vu Douleur et Gloire aussi.
Et Douleur et Gloire. Ah, mais oui, mais. Oh, il est super, allez le voir et tout. Il est génial. J'étais sur la croisette, lunettes de soleil, tout ça. La classe.
Douleur et Gloire d'un Almodovar. Donc, au final, même si certains éléments n'ont pas été excessivement convaincants pour tout le monde, on garde quand même, a priori. Une très bonne impression. Voilà. Donc c'est le premier film présenté à Cannes que l'on apprécie beaucoup. En même temps, c'est le deuxième qu'on voit, donc c'est pas non plus représentatif. Merci à ça.
Merci Thierry.
Merci Alex.
Merci Thierry.
Et merci Thomas de m'avoir laissé les commandes pour cette fois-ci. Ça se reproduira pas très souvent, visiblement.
Il vous en prie.
On sait que ça a été fastidieux. Le changement de voix, forcément, c'est pas rassurant. Hein. On a un petit peu peur. On se dit, mais attends, mais ça va être comme ça tout le temps. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas.
Et rassurez-vous, vous n'avez pas l'image.
Almodovar, c'était cool. Là, on va voir un autre grand nom du cinéma, un autre grand nom cannois, Claude Lelouch. Claude Lelouch qui revient pour Les plus belles années d'une vie, la suite du mythique Un homme et une femme.
La suite 55 ans après. Il avait déjà fait une suite qui s'appelait, je crois, Un homme et une femme 20 ans après. Qui a priori n'est pas une suite très réussie, puisque même Jean-Louis Trintignant à la base était pas du tout chaud à l'idée de refaire Les plus belles années d'une vie, parce que justement on lui disait, rappelle-toi Claude, quand on a fait ça 20 ans après, c'était pas très bien. Même Lelouch, lui, ne veut pas du tout entendre parler de cette suite, donc il semblerait que selon lui ce soit la seule suite officielle.
Seule suite officielle, d'ailleurs tellement officielle qu'il a repris les mêmes acteurs. Alors Jean-Louis Trintignant bien sûr, Anouk Aimée aussi, mais même les enfants, les acteurs qui jouent les enfants ont été repris pour l'occasion.
Ça c'est incroyable. Alors, au final on en a une des deux qui avait fait une petite carrière, qui a fait quand même des films, mais il y en a un autre, il a fait du coup qu'Un homme et une femme. Après c'est très étonnant de se dire, enfin voilà, je sais pas si ce truc-là était prévu depuis longtemps, s'il avait eu envie de le faire ou si ça lui a pris comme ça, mais se dire qu'il a réussi à réunir Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée qui sont encore là vu leur âge.
Il a eu l'idée après Amour de refaire tourner Jean-Louis Trintignant.
D'accord. Voilà. Ah oui, de toute façon, Amour était aussi le retour de Trintignant et la preuve qu'il avait envie de refaire du grand écran. Et non, c'est une belle idée. Après, justement, c'est un pari risqué. Ce sont des gens qui sont très âgés, qu'on n'a pas vu ensemble depuis longtemps.
Déjà, moi, rien que la bande-annonce m'a fait pleurer. Et je suis très sensible.
Ça, c'est fou parce que moi, j'ai pas vu Un homme et une femme. J'ai découvert Lelouch avec Ces années-là. Et il était d'ailleurs en rencontre au cinéma et il passait son temps à répéter qu'il avait quand même eu des prix pour Un homme et une femme en son temps. Et il y a une espèce d'aura, ouais, qui se découle de ce mec, c'est sa façon de parler de l'amour, sa façon de le montrer. Et oui, quand tu vois en tout cas la bande-annonce, tu sens que t'as l'impression vraiment que le couple Trintignant-Aimée ont vécu 50 ans ensemble et vont nous raconter ça, quoi. Et c'est assez fou de, de déjà sortir autant de choses d'une bande-annonce.
Alors écoutons-la, cette bande-annonce.
Bonjour.
Vous êtes nouvelle ?
Vous rêvez à quoi ?
À des jolies femmes. J'ai beaucoup aimé les femmes. Et surtout l'une d'entre elles à qui vous ressemblez. C'est joli ce geste que vous venez de faire.
Les plus belles années d'une vie.
Vous voulez vous évader avec moi ?
Celle que l'on n'a pas vue.
Allez, embrassez-moi.
Ce sera la folie.
Il y a combien de temps que vous n'avez pas été folle ?
Madame, bonjour. C'est interdit de rouler ici sur les planches en voiture.
Et depuis quand ?
Depuis 50 ans. Depuis qu'un crétin a roulé ici avec sa Ford Mustang.
C'était moi.
Si tu veux vraiment respecter le rythme du film, ce sera... La musique va plus vite que le dialogue. Et c'est peut-être le seul truc qui maintient éveillé.
Musique de Calogero, d'ailleurs, sur le film.
Bah, musique, c'est des réarrangements des musiques d'un homme et une femme par Calogero et Nicole Croisi. C'est assez marrant. Ils ont ressorti aussi Nicole Croisi.
On a ressorti Nicole Croisi pour l'occasion, c'est merveilleux. On a ressorti Jean-Louis Trintignant, effectivement. Bon, alors, moi je trouve que c'est quand même le point positif du film, c'est Jean-Louis Trintignant. Parce que c'est un grand acteur, quoi. Même diminué, tu sens qu'il y a une présence quand même. Il fait bien le petit vieux qui perd la mémoire aussi. Bon, il doit y avoir du vécu aussi, mais ça devait pas être facile aussi parce que lui-même est très fatigué. Je l'avais vu, en ce moment il tourne. Il tourne au théâtre. Alors, au théâtre, qu'est-ce qu'il fait ? Il est assis sur une chaise et il récite des poèmes avec des musiciens autour, mais en gros c'est ça. Et bon, même si physiquement il est diminué, tu sens que l'addiction, la poésie, la voix, la présence, elles sont toujours là.
Mais il utilise ça justement, il y a un passage où justement il récite des poèmes parce qu'il fait des exercices de mémoire dans la maison de retraite où ils sont, qui s'appelle d'ailleurs le domaine de l'orgueil. Je tiens à préciser qu'il y a une maison de retraite qui s'appelle comme ça dans ce film, quoi. Et le passage vraiment où il récite les poèmes, t'as vraiment l'impression que tout le son autour s'oublie pour justement se noyer dans sa voix et tu vois le mec qui vit son poème et ouais, c'est super touchant. Après ouais, en effet, il est diminué au point que tu le vois jamais se déplacer puisque même si tu sais qu'il des fois ils te font comprendre que le personnage se lève d'une chaise à l'autre et compagnie, mais chaque fois que tu le vois, il est assis sur une voiture, il est assis sur son fauteuil. Il y a un moment où il se lève et encore c'est des plans tellement filmés en matière auditoire ses visages que tu vois pas. Et moi, même dans les points positifs, j'ai bien aimé Anouk Aimé, elle est vive, elle a exactement le même âge que Jean-Louis Trintignant et physiquement, d'un point de vue physique, elle est beaucoup plus vive, elle est encore là, elle a de la présence et oui, t'as presque l'impression qu'elle a quand même au moins une dizaine d'années de moins en fait que lui, alors que pas du tout. Après voilà, le couple fonctionne plus ou moins, mais le film est chiant au possible, quoi.
C'est un film décousu, c'est un film un peu patchwork, j'ai l'impression. J'ai l'impression que Claude Lelouch a pris un peu de ses chutes d'un homme et une femme, de ses chutes perso aussi, de ses films à lui. Il a pris quelques poèmes qu'il aime bien de Jean-Louis Trintignant, il a pris 2-3 scènes sympas. Il a appelé Monica Bellucci qui vient faire une participation comme ça, vite fait. C'est un film de poste, c'était un film un peu vite fait, et puis il colle des bouts un peu comme ça, et il y a des scènes de vie, on ne sait pas trop. Et c'est très très inégal comme film, parce qu'il y a des passages où la première rencontre entre, la première retrouvaille entre Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimé, moi elle m'a touché. Moi j'ai été pris par ça, parce que il y a quand même une tristesse, il y a la décrépitude de l'âge, et puis il y a l'histoire d'amour qui reste, et puis moi je trouve que c'est quand même une belle histoire. Mais après, derrière, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'instants qui font reflopper tout ça. Dès qu'on passe sur les autres acteurs, c'est mignon d'avoir repris les enfants, mais enfin, ça sort du film. Pareil, j'ai l'impression que les meilleurs moments du film aussi, ce sont quand on a des chutes d'un homme et une femme, quand on revient sur ces scènes-là, même si des fois on les entrecoupe avec une voix off qui casse un peu l'ambiance. Il y a aussi, le passage, c'est pas dans Un homme une femme, il y a aussi l'extrait, le film de Claude Lelouch où il roulait à fond la caisse dans Paris. Tout à fait. Voilà, disons qu'en fait c'est du Claude Lelouch Cinematic Universe, mais mais c'est très inégal. Pour 2-3 trucs bien, il y a beaucoup d'ennuis, beaucoup de longueurs, beaucoup de flops. C'est un film qui n'a pas tant de fil rouge que ça, qui n'est pas vraiment tenu. C'est un film qui a trous, un peu comme la mémoire du héros.
Mais Claude Lelouch, c'est quelqu'un qui, de toute manière, en général, enfin moi, c'est quelqu'un que j'ai pas trouvé très agréable en général. C'est quelqu'un qui aime bien se regarder, qui aime bien faire, faire référence à lui-même, se rappeler à tout le monde qu'il a été un grand cinéaste un jour. Et il a peut-être oublié que du coup, ça fait peut-être longtemps qu'il ne l'est plus et que la manière de montrer que t'es un grand cinéaste, c'est de faire des grands films. Après, il y a l'intention derrière me convient. Enfin, c'est qu'elle sait Claude Lelouch a 81 ans. C'est quelqu'un qui se pose aussi des questions, je pense, sur sa propre mortalité, sur son état de santé. Il a l'air d'être encore assez en forme. Et j'imagine que voir des gens avec qui il a travaillé, avec qui il a tourné, comme Jean-Luc Trintignant justement, se mettre à dépérir, ça lui file un coup. Et qu'il a envie de retranscrire ça à l'écran. Après, il le fait par le biais de dialogues qui sont mignons comme tout, qui sont pas d'une grande écriture, mais qui fonctionnent. Parce que tu imagines bien, de petits vieux avoir ce genre de discours, en fait. Ce genre de ressassement, ce genre. Il joue beaucoup, là, sur le côté ressassé, sur le côté, ça radote un peu et compagnie. Alors, du coup, ça fait que le rythme est un peu lourd. Et ça se justifie. Donc, oui, voilà, le film est géant, en effet. Après, je vois pas trop comment il aurait pu le faire autrement. Pour parler de ce genre de sujet, en fait. Peut-être sans les chutes, peut-être sans tout ça, peut-être sans référencer à fond son cinéma pour dire « Regardez, c'est quand même moi qui ai fait Un homme et une femme, c'est le plus grand film de la Terre, gna gna gna. »
Après, vu l'état de Jean-Louis Trintignant, ça devait être aussi compliqué de le faire tourner longtemps. Ouais, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il recycle autant les poèmes aussi. Et bon, il y a beaucoup de raisons qui doivent expliquer ça.
Mais surtout qu'il y a beaucoup de passages où il est en voix off, de toute façon. Il y a énormément de passages où ils ont dû le faire parler, lui faire réciter des dialogues, et après ils mettent juste des plans sur la voiture qui avance, où on te dit que c'est lui qui conduit, mais tu le vois pas. Voilà, ça, évidemment, c'est pas une utilisation idiote. Voilà. En tout cas, si c'est sûrement pas le dernier film de Claude Lelouch, puisqu'il nous précise bien à la fin que c'est son 49e, et je pense qu'il va forcément vouloir en faire un 50e, parce que l'ego va arriver par là et lui dire « faut battre les records ».
La maison de l'orgueil.
La maison de l'orgueil. Mais en tout cas, ça risque d'être, oui, en effet, l'un des derniers films où on verra Trintignant. Et pour ce couple d'acteurs, même pour Anouk Aimée, qui est de toute façon extrêmement rare et qui a dû revenir pour ça, mais qui n'a pas spécialement l'intention de jouer, j'imagine, beaucoup, c'est un bel au revoir. Voilà, j'espère qu'on les reverra, mais c'est un bel au revoir, quoi.
On va pas passer trop de temps, parce qu'on a été assez long sur le Almodovar, et donc on va passer vite à la suite. On va passer à Sibylle. Et donc on a Karl qui nous a rejoint. Donc re-salut Karl.
Re.
Voilà, parce qu'on s'est dit bonjour à l'intro, mais voilà, c'est la magie du montage.
Je n'étais pas là pourtant.
Ça fait deux films que je suis pas là, qu'est-ce qui se passe?
Faut vraiment que j'arrête de regarder Twilight Zone avant de venir.
Non, mais je ne vais pas bien car y a un petit souci relationnel entre moi et Thierry sur les tournages, sur les enregistrements de Claque. Du coup, j'ai demandé à Karl de venir m'aider pour me soutenir psychologiquement. Eh bien, je crois que c'est à peu près le pitch de Sibylle que nous allons voir. Parce que de ce que j'ai compris, on a Virginie Fira qui est psy et qui se retire du métier pour écrire son bouquin. Seulement voilà, Adèle Exarchopoulos est actrice et elle vient lui demander de l'aide parce que justement ça va pas trop bien sur un tournage, une relation avec Gaspard Huel qui se passe pas très bien. Et bon, Virginie Fira, elle est touchée, ça l'inspire, du coup elle décide d'aller l'aider et de continuer, de même la suivre sur le tournage pour l'aider. Sibylle donc de Justine Triette, qui avait réalisé La bataille de Solferino et Victoria, avec Virginie Efira d'ailleurs toujours. Le casting, on l'a dit, Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Huel, Sandra Hüller, Laure Calamy qu'on a vu dans 10%, et Neil Schneider, qu'on a déjà vu dans Ad Vitam par exemple, ou Curiosa, mais qui était aussi l'amant et le mari, enfin le... non, juste l'amant justement, de Virginie Efira dans Un amour impossible. On a eu une promo qui nous a bien bombardé. Été bombardé de teasers.
Séance, quoi.
Ouais, c'est assez insupportable, mais bon. Et j'espère que le film en vaut la peine. Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier pour ce film ou pas? Lui, par contre, est en compète. Hein.
Ouais. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé Victoria. J'avais adoré Efira. Bon, Efira, c'est une personne qui m'a convaincu depuis longtemps. La première fois que je l'ai vue au Cinoche, j'étais là, mais qu'est-ce que la Miss Météo Bal? Je suis là-dedans. Et en fait, elle est monstrueuse chaque fois qu'elle joue quelque part. Donc, j'y crois. Petit message à Paul Verhoeven, sors Benedetta parce que j'ai envie de voir Virginie Efira bosser encore avec toi. Mais du coup, ouais, et ce qu'arrive à sortir Justine Trier d'Efira, c'est tout le temps monstrueux. Donc du coup, les voir retravailler ensemble, c'est chouette. Voilà, je n'attends pas grand chose de plus. Je me suis pas énormément renseigné sur ce dont tu parles. Tu vois, je découvre le synopsis quand tu l'as mentionné et j'ai vu quelques bandes annonces. Certains trailers qui m'ont plu, d'autres non. Enfin, parmi les trois qui diffusaient à chaque fois en salle, là. C'est en compétition, c'est intéressant, c'est une autrice que j'aime bien. À voir, voilà.
Alors moi j'aime bien le synopsis qui me rappelle un petit peu ce qu'a pu faire Stephen King quand il est un petit peu moins science-fiction, horreur, en tout cas fantastique, où on est vraiment sur des gens un peu tarés. D'ailleurs je crois qu'il y avait une adaptation de Stephen King qui était sur une fan qui kidnappait son auteur préféré pour le forcer à continuer. Misery, c'est ça. Ça me rappelle un peu ça, et j'espère que ça sera un petit peu dans ce délire-là, parce qu'il y a grave moyen de faire un thriller psychologique assez sympa avec ça, surtout avec une psychologue qui part en vrille, ça c'est sujet rêvé.
Moi j'y vais pour Virginie Efira, voilà, c'est tout. Voilà, c'est le seul truc qui m'attire.
Pas pour son jeu d'actrice ?
Ça fait partie du... Alors promis, je n'en vois qu'une seule bande-annonce, je n'en mène pas trois, ça va.
C'est en plein milieu de l'épisode, t'en balances une.
Aussi ouais, sauvage que la promo.
Bonjour, je m'appelle Sybille. J'ai quitté la plupart de mes patients, là. Je me sens dans une très très bonne énergie. J'ai surtout envie d'écrire, en fait je suis obsédée par ça.
Je crois que j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage, je peux pas risquer de tout perdre, c'est impossible. Je suis enceinte de 2 mois, je peux pas le garder. J'ai tellement peur, je peux pas lui dire. C'est un comédien. Il est connu, je veux pas vous dire son nom.
Tu liquides tous tes passions pour écrire, mais tu prends cette fille.
On a tout ça fait pour certains d'entre eux, non ?
Arrête d'écrire sur elle.
J'écris pas sur elle. Cette fille m'obsède.
Il te manque ?
L'intensité de l'amour qu'on avait l'un pour l'autre me manque, oui.
Il y a quelque chose que je vous ai pas dit, il est en couple, avec la réalisatrice du film. Faut que vous le voyez, que vous veniez sur le tournage. Moi, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à me projeter.
Non, c'est impossible, ça.
Ouf, alors c'est un film canois, un film sur le cinoche qui se regarde, un film sur les personnages torturés, un portrait de femme très approfondi, une entrée en matière assez forte. Moi j'ai beaucoup aimé la première scène du film, celle qu'on voit dans les teasers d'ailleurs, qui est très très forte, la scène des plateaux tournants qui indique un peu le tourbillon dans lequel on va être plongé, et pour se recentrer sur ce portrait de femme, le ton est donné d'entrée. Un film intéressant, qu'est-ce que vous avez trouvé?
Quand je disais que Justine Triet et Efira, c'était un duo qui j'avais trouvé qui fonctionnait bien sur Victoria, parce qu'elle pouvait tirer des choses de cette nana et vraiment l'éprouver. Là, c'est le parfait exemple. C'était d'une puissance en termes de jeu, en termes d'émotion, en termes de force. J'ai trouvé ça dingue, au moins là-dessus, quoi.
Bah, dès cette première scène dont tu parles, qui est en fait un long plan séquence avec un léger. Alors, je sais pas si c'est un zoom ou un travelling avant. Probablement.
C'est un zoom.
Ouais, ça a plutôt l'air d'être un zoom. En fait, on voit déjà le problème du perso. Donc, c'est une psy qui, dès la scène d'intro, va abandonner son cabinet de psy et se remettre à l'écriture qu'elle a abandonné depuis 10 ans. D'ailleurs, je disais avant que ça ressemblait à un Stephen King. C'est une ancienne alcoolique, comme tous les personnages de Stephen King. Et au fur et à mesure que la caméra se rapproche, en fait, donc elle discute avec un éditeur qui lui explique la situation. Et on voit qu'elle ne l'écoute pas tout connement grâce à la mise au point. Qui met le gap petit à petit flou, et où en fait elle est toute seule, enfin on se concentre plus que sur elle, comme elle ne. Finalement, elle se concentre uniquement sur elle. Elle a beau être psy, elle n'arrive pas à sortir de ça pendant tout le film. Et rien que cette première scène, c'est assez ça.
Tout est résumé là, en fait. C'est marrant, il y a l'éditeur qui est en train de parler de l'édition, du monde de l'édition, ça va très vite, il y a Internet, tout ça. Et d'ailleurs, il y a les plateaux tournants qui vont dans tous les sens, on n'y comprend rien, on est perdu, on est complètement perdu. Mais en réalité, Je pense que les plateaux ne parlent pas de ce que dit l'éditeur, même si ça a l'air de coller, mais c'est plus ce qui se passe dans la tête de Virginie Efira, d'ailleurs que le monde va trop vite autour et que ça va dans tous les sens et qu'elle-même elle est paumée. Et plus ça va, plus on se resserre, plus on l'enferme un peu dans le cadre, et elle est isolée dans le cadre petit à petit, et en fait on est dans sa tête tout le temps et on va être tout le temps dans sa tête tout au long du film.
Oui, il y a pas mal de flashbacks, notamment il y a 10 ans quand elle sortait de son alcoolisme, qu'elle essayait de se mettre à l'écriture, tout ça. Et même les premiers, ils arrivent un peu violemment. Et au départ, j'avais pas compris ces flashbacks. Je me disais qu'ils avaient juste pété un câble au niveau du montage. En fait, non, on est tellement dans sa tête que, comme toi, de temps en temps, de nulle part, tu as repensé à une période de ta vie alors que t'es dans le bus ou en train de discuter avec quelqu'un. C'est comme ça, mais au montage. D'un seul coup, on va te mettre un plan d'une scène d'il y a 10 ans.
C'est ça. Alors, l'histoire est en gros ce qu'on avait dit en intro. C'est-à-dire que Virginie Efira, donc Sybille, hein, voilà, a déjà écrit un roman, mais il y a 10 ans.
à succès d'ailleurs. Mais elle avait arrêté d'écrire pour se concentrer sur sa patientèle, sur son métier de psy, pour devenir psy. Et là, subitement, elle décide de lâcher finalement son activité de psy pour écrire. Elle lâche ses clients petit à petit pour écrire son bouquin. Elle a du mal quand même, hein. On sent la grosse page blanche qui la taraude. Hein. Et il y a cette actrice, donc Adèle Exarchopoulos, Margot, dans le film, qui l'appelle en drame, en urgence, c'est catastrophique. Alors, il y a une situation, on ne sait pas trop, on apprend petit à petit la situation et chaque fois il y a un truc un peu plus, il y a une couche qui se rajoute à chaque fois. Donc en gros, l'actrice en détresse qui est complètement perdue, donc qui l'appelle, qui même le harcèle, hein, on peut dire ça carrément. Et donc Virginie Efira, donc Sibyl, va décider de s'occuper d'elle, même au point, au moment d'aller la suivre sur le tournage. Et en fait, on apprend finalement, est-ce qu'on peut le dire, que ça renvoie à elle les pensées qui la traversent, les fameux flashbacks, où elle repense à sa relation avec Neil Schneider, qui est, en fait, ils passent le film à baiser ensemble. Hein. C'est en gros, elle revoit un amour impossible, ça doit être les scènes coupées, un truc comme ça.
C'est un amour passionnel qu'elle a eu il y a 10 ans. Et qui se distingue complètement de son amour actuel avec son compagnon, avec lequel elle a une fille, enfin, avec lequel ils élèvent leurs deux enfants, dont lui, tout le monde se fout. Il a peut-être 3 ou 4 scènes, je ne sais même pas si son nom est mentionné à un moment, et c'est vraiment la relation installée où on s'emmerde, en fait.
Ouais, mais c'est la relation stable, en fait. C'est la stabilité dont elle a besoin, mais c'est pas la stabilité dont elle a... mais c'est pas le désordre dont elle a envie. En fait, ce qui est assez marrant là-dessus, c'est justement, c'est à tout part d'une mauvaise décision, le fait de choisir de s'occuper de cette actrice. Et au final, même la pauvre actrice qui l'appelle, elle tombe sur la psy la plus instable au moment où justement cette psy a besoin de se recentrer. Quand on se demande toujours, non mais les psys, à force d'entendre plein de trucs comme ça, est-ce que eux aussi dans leur tête ça va? Non. Hein, je veux dire, de toute façon, 100% des psys diront toujours « Nous aussi, on a des soucis, nous aussi, on consulte, et nous aussi, on a des choses à régler, ce qui est normal. »
C'est obligatoire, il me semble, pour les psys de consulter.
C'est carrément obligatoire. Après, être névrosé à ce point, peut-être pas tous, mais en tout cas, tous ont des choses aussi. voilà.
Après, elle a l'air d'aller bien dans le sens où, par exemple, on parle aussi du deuil de sa mère, qu'elle a l'air d'avoir bien géré, alors que sa sœur à côté est complètement dévastée. Ouais.
Non. Alors, non, honnêtement, elle est à deux doigts de virer en mode Harley Quinn.
Oui, non, mais d'accord, je dis qu'elle a l'air.
Ça joue sur l'inachevé. Ça joue sur l'inachevé, ça joue sur le côté Sibyl, c'est le rock, c'est elle la psy. Donc du coup, c'est elle qui délaisse pas ses émotions parce qu'elle doit s'occuper de sa sœur, parce qu'elle doit justement s'occuper de cette actrice et qui finalement, on est au point de non-retour, on est au point où elle doit craquer, elle doit le faire, mais elle l'a pas fait suffisamment tôt. Et donc tout ce moment-là, enfin tout tombe dans cette espèce de spirale et elle se fait accumuler de tellement de choses que du coup bah c'est l'hécatombe quoi.
C'est le craquage, c'est une descente aux enfers tout au long du film. Bon, et sinon, alors, donc on a parlé du film, donc c'est très prenant. Vous avez aimé ou pas?
Prenant, j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas un seul moment où ça m'a lâché. On avait vu que le film durait 1h40. Il y a quand même un moment où j'ai l'impression que ça durait plus longtemps, mais je me disais, le film est quand même pas terminé. Je me suis dit, putain, peut-être que dans le ressenti, j'ai l'impression que c'est un peu long, mais pas dans l'appréciation. J'avais quand même envie que ça continue parce que je me disais, ok, il y a plein de choses à clore. Et je trouve que tout est bien foutu, tout est super juste, mais tout du long. Il n'y a pas un seul moment où je me disais, ça c'est en trop, tout sert en fait, tout est super bien écrit, c'est un sacré plaisir quoi.
Pour moi, ça ralentit pas mal à partir du moment où elle arrive sur l'île. Ça devient pas mauvais. Il y a par exemple la scène où c'est un tournage. Et il y a l'actrice et l'acteur donc, qui vont coucher ensemble, et grosse tension parce que l'acteur c'est aussi le mec de la réalisatrice. Et il y a la scène où l'actrice doit lui mettre une tarte. Et bon, on est au cinéma, on fait pas qu'une seule prise. Et c'est assez plaisant parce que même, on sent que même le monteur s'est fait plaisir. Envoyer 200 tartes à Gaspard Huyel, c'est assez marrant. Mais après, ouais, l'île ça en va encore, mais quand on revient de l'île, pour moi ça ralentit encore un peu. Et même à la fin, je trouve qu'il y a peut-être une ou deux scènes en trop. Dans l'ensemble, c'est positif, mais petit à petit, j'attendais quand même un petit peu le générique.
Alors, moi, je suis un peu déçu de la promo de ce film, parce qu'on va voir pas mal de films quand même, et il y a eu un bombardement de teasers du film, et on nous a balancé, il y avait, dans une même séance, il y avait 3 teasers successifs au milieu des pubs, avec les meilleurs extraits du film, et d'ailleurs, ça n'a pas manqué, les meilleurs extraits, on les a eus, et là où la salle a le plus réagi, c'était justement sur ces fameux teasers. Donc, en gros, je me suis fait sacrément spoiler le film. Parce que, en dehors de ces moments forts, finalement, il n'y a pas de, de si grand moment que ça.
Ouais.
Je trouve, enfin, après, ça se tient, quoi. Même si je trouve que parfois, on se perd beaucoup dans, dans ses pensées. Et je trouve que c'est un peu long, justement, quand on fait des allers-retours. Il y a des moments, je trouve ça un poil long. C'est un petit bémol, hein. C'est, attention, c'est, mais... Non, voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'apprécie quand même le film, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en dehors de ces moments-là, il n'y a pas. C'est comme la phase du. La phase de la sœur qui manipule le... Alors, c'est pas un petit garçon, c'est une petite fille. Je me suis planté, parce qu'elle a les cheveux courts, en fait, la gamine, et donc on ne sait pas trop. À cet âge-là, on ne distingue pas bien.
Tu es très genré, Thomas.
Je suis très genré, mais oui, mais complètement. Et donc, ouais, sur la manipulation, alors. C'est pas ce côté-là est pas tant exploité que ça. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées dans le film et je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont ça, très vite mises de côté.
Ça servait juste à faire une blague. C'est dommage.
Alors ça va nous servir plus sur la fin, je pense aussi, pour justifier des choses à la fin.
Il y a un thème de la manipulation dans le film. Les mères qui manipulent leurs filles, les conjoints qui manipulent leurs conjointes inversement. Comme je disais, réalisateur et acteur. Un réalisateur est obligé de manipuler son acteur d'une façon ou d'une autre, donc de toute façon. Et il y a un gros thème de la manipulation, mais qui en fait est introduit avec ce moment où la tante dit à la fille « Tiens, je vais t'apprendre à manipuler ta mère. Dis-lui que tu n'es pas prête à affronter la vie.
» C'est dégueulasse. C'est vraiment affreux.
Alors qu'elle est déjà dans une spirale dingue avec une personne qui lui fait la même chose, quoi.
Mais donc, du coup, la morale de ce film est très importante, hein. Toute relation est une manipulation, ne vous y fiez pas. Allez, vivez seul, salut, au revoir.
C'est vrai que ça donne pas envie de se mettre en couple quand même.
C'est pas faux. Mais à la limite, avec le mec chiant, parce qu'au moins il est stable, mais c'est vrai que si tu t'emmerdes après, bah du coup tu déconnes. c'est compliqué.
Désolé, je préfère avec un peu moins de barbe.
Oui, bah là on parle de Sybille. Hein.
Ah oui, Sybille, oui.
Oui
bah. Ah non, elle est folle, elle est folle. Oui, Virginie Fira, oui, Sybille.
Virginie Fira qui se donne à fond pour le rôle. Hein.
Ouais. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça me faisait penser. En fait, dans le côté justement, parce qu'il y a aussi des scènes de nu qui sont hyper intenses et elle est parfaite là-dedans. Elle me fait vachement penser à Huppert, quoi. C'est une nana qui a pas froid aux yeux, qui ose tout et n'importe quoi dans ses rôles. Et elle est en train d'avoir une carrière. Mais deux malades, moi chaque fois que je la vois, elle me bluffe et elle me bluffe encore plus. Et même si je suis sûr d'être content, je suis quand même surpris. Voilà.
D'ailleurs, on est d'accord que la première heure, c'est celle que vous croyez en bienfait.
Ouais. Ouais, enfin, on peut dire ça. Mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on nous montre un tournage qui est très difficile. Un tournage qui est très difficile avec des scènes où justement le couple lié à Exarchopoulos là, et on leur demande des scènes très intenses alors qu'eux peuvent plus se blairer, que c'est fini et qu'on leur demande presque de s'envoyer en l'air sur le plateau, quoi. Et on est dans un film aussi où on sent qu'émotionnellement on les a foutus mais à cran, quoi. Je veux dire, c'est il y a tout le temps une espèce de tension, une espèce de rage qui se dévoile sur tous ces personnages, quoi.
Et ils vont tourner à Stromboli, donc le volcan est en activité, donc tu sens que c'est sous haute tension, ouais. Ça peut péter, quoi.
Ouais, c'est clair. Mais voilà, c'est pour ça, on assiste à un tournage qui est en réalité l'ambiance qu'il y a pu avoir sur ce tournage-là, en peut-être beaucoup plus sain, mais en tout cas, tu sens que voilà, ce qu'on a demandé de faire à tous ces acteurs, autant que dans la sous-fiction que dans la fiction principale, c'est fort, c'est super fort. Ils sont tous ultra justes, Adèle Exarchopoulos, pareil, je veux dire, elle est merveilleuse là-dedans, quoi. Et ça fait justement plaisir parce que depuis La Vie d'Adèle, je l'avais vu dans des trucs où je la trouvais pas toujours très égale. Et là, voilà, Justine Triet, directrice d'actrice, monstrueuse.
En actrice qui pète les plombs, elle est merveilleuse.
Oui, oui, non, elle a un personnage absolument délicieux. Ça sent que je crois que c'est celle qui s'éclate le plus avec son perso. Parce que j'ai rien pour avancer ça, mais c'est juste vraiment. C'est, je crois que parce que c'est mon perso préféré. Je pense que j'ai l'impression que l'actrice était tellement à fond que c'est devenu mon perso préféré.
Elle se lâche complètement sur ce rôle.
Moi, je dirais que c'est un film plus que correct, c'est un bon film, mais c'est surtout calibré pour du Cannes, pour recevoir des pour filer des prix à tout le monde. Hein.
Ouais, un peu.
On va aller vérifier le verdict.
Alors, ça tombe bien que tu dis ça, parce qu'au moment où on sort du Cinoche, la cérémonie de clôture vient de se terminer, donc on a reçu les notifications du palmarès. Voyons ça. Là, sortons de nos téléphones. Donc, alors,
la Palme d'Or est attribuée à Parasite. Et tu le mettras en boucle.
De Bong Joon-ho. Bon, qu'on n'a pas pu voir parce qu'il sort dans 2 semaines.
Ouais.
Voilà.
Et du coup, déjà, moi, j'étais ultra excité à l'idée de me dire qu'un Bong Joon-ho sortait en plus au Cinoche. Et encore plus, du coup.
Déjà, Okja avait poser la question, pas que lui, mais de Netflix à Cannes, parce que Okja est clairement le meilleur film original Netflix, parce que réalisé par Bong Joon-ho, et qu'il ait le prix avec son suivant, honnêtement c'est assez cool. Moi c'est un réalisateur, j'adore tous ses films, j'ai découvert avec un peu tard avec Snowpiercer, mais j'ai tout bouffé aussi vite que possible. Snowpiercer reste mon préféré, mais je suis très très impatient de voir Parasite.
Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans le, dans le palmarès ?
Prix d'interprétation masculine, Antonio Banderas, Dula Regla.
Ben, c'est ce qu'on se disait un peu en sortant du Almodovar.
C'est vrai qu'on n'a pas vu le reste, on ne va pas juger toutes les prestations du coup. Mais en tout cas, Antonio Banderas était complètement dingue là-dedans. Donc voilà, on ne sait pas ce que valent les autres, mais c'était largement mérité. Quoi.
Ah oui, là, en sortant du film, on s'est dit, waouh, il a mis la barre très très haut.
Miroir d'Almodovar, une interprétation mais tellement au poil dans tout. Non, c'est...
Grand Prix Atlantique de Mati Diop qu'on n'a pas vu.
Pareil, pas vu.
Prix du jury Les Misérables de la Gilly, donc du coup du le film qui disait ouais on aurait dit le successeur de La Haine. Ouais, donc voilà.
Ouais, je suis très content qu'il reparte avec un prix parce que je crois que c'est celui-ci qui n'avait même pas de date de diffusion en France et que ça allait être très compliqué. Et du coup ça va le booster pour qu'il soit bien distribué. Donc c'est chouette, on va pouvoir le voir.
Prix d'interprétation féminine. Emily Beauchamp pour Little Joe de Jessica Hausner que nous n'avons pas vu. Mise en scène, le jeune Ahmed qu'on n'a pas vu mais pourtant il est sorti.
Ouais.
Donc alors, il faudrait faire le forcing pour aller le voir.
Faut qu'on le rattrape.
Prix de la mise en scène pour les Dardennes. Faut savoir que les Dardennes utilisent une technique très compliquée pour filmer. Il y en a un qui tient la caméra et l'autre qui le chatouille.
Scénario, portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma.
Ça aussi j'ai très envie de le voir, portrait de la jeune fille en feu de Sciamma. Voilà. Parce que Bande de filles c'était génial. J'ai envie de voir de Sciamma.
Mention spéciale, It Must Be Even d'Elia Sunma, Caméra d'Or, Nuestra Madre.
J'aime beaucoup la mention spéciale, t'as pas de prix mais c'était pas mal.
Après, sur le Jarmusch qui n'a rien eu, ça c'est pas une surprise.
Oui, enfin heureusement, ils auraient filé un truc à Jarmusch juste pour dire « on lui file un truc parce que c'est Jarmusch », non voilà, tant mieux.
Ouais, je l'ai pas encore vu, hein. Je suis pas du tout fan de Jarmusch parce que bah, j'aime bien ne pas m'emmerder devant un film. Et j'avais vu l'affiche dans le métro, je savais pas du tout qu'il faisait ça. Et là je vois film de zombies avec Adam Driver, avec Iggy Pop, je me dis putain trop bien. Et là je descends les yeux sur l'affiche et tout a l'air cool. Et là je vois Jim Jarmusch et je me fais ah merde.
Alors, mais tu as bien raison.
Des gens qui aiment Jim Jarmusch ne l'ont pas aimé, alors imagine.
J'attends la co-réalisation avec Xavier Dolan.
Mathias et Maxime, ils repartent Bourdouille.
Il semblerait.
C'était certain la macho.
Merci à tous donc d'avoir participé à cet épisode un peu spécial. Merci à ceux qui n'enregistrent pas en ce moment-là même. Merci Karl.
Merci Thomas.
Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode spécial jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé la formule qui sort un peu du format habituel.
Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes applications de podcast.
Abonnez-vous pour retrouver le prochain épisode spécial. Ainsi que tous les prochains épisodes.
Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram à Clac Podcast, C-L-A-A-C, Clac Podcast. Ah, ça marche pas trop mal hein, comme ça.
Cast. Ouh. Pour nous soutenir, un petit message sur iTunes avec 5 étoiles et en plus vous pouvez choisir les prochains films en mettant le nom justement.
On vous dit à très bientôt pour un nouveau film. Bisous, bisous, bisous.
Bisous, bisous.
Bisous.
Bye.
Et par un subtil montage, on fera comme si tout le monde avait enregistré en même temps et tout le monde dira au revoir. C'est merveilleux.
Oh, Alex, comment vas-tu?
C'était génial.